Bonjour à tout le monde. Toujours heureux de me retrouver ici. Je continue ma série et nous poursuivons la première lettre de Paul aux Corinthiens. Nous poursuivons notre lecture dans le chapitre 1. On avance tranquillement. Et nous lirons ce matin les versets 10 jusqu'à 13. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 1. Versets 10 jusqu'à 13. Frères et sœurs, je vous en supplie, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, mettez-vous d'accord, qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Soyez bien unis en ayant la même façon de penser et les mêmes convictions. En effet, mes frères et sœurs, des personnes de la famille de Chloé, m'ont informé qu'il y avait des rivalités entre vous. Voici ce que je peux dire. Parmi vous, l'un déclare « Moi, j'appartiens à Paul. » Et l'autre « Non, moi, à Apollos. » Et un autre encore « Moi, à Pierre. » Mais moi, j'appartiens au Christ. Pensez-vous que Christ puisse être divisé? Est-ce Paul qui est mort sur la croix pour vous? Avez-vous été baptisé au nom de Paul? Dieu merci, je n'ai baptisé aucun d'entre vous, à part Crispus et Gaius. Ainsi, personne ne prétendra que vous avez été baptisé en mon nom. Ah oui, c'est vrai, j'ai aussi baptisé la famille de Stéphanas, mais je ne crois pas avoir baptisé qui que ce soit d'autre. Le Christ ne m'a pas envoyé baptiser. Il m'a envoyé annoncer la bonne nouvelle, et cela sans utiliser le langage de la sagesse humaine, afin de ne pas priver de son pouvoir la mort du Christ sur la croix. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Donc, ce passage parle de l'unité des chrétiens. Qu'est-ce que l'unité de l'Église? Voilà la question qui est soulevée par les écrits de Paul. Puisqu'il nous encourage, que dis-je? Il supplie l'Église de Corinthe en disant « Soyez bien unis, n'ayez pas de division parmi vous. » Je vous laisse imaginer... Ceux qui connaissent bien la Bible, ceux qui s'imaginent l'étoffe, la carrure de l'apôtre Paul, quand même, se mettre à genoux et supplier une communauté. Pour dire à quel point c'est important pour lui. Surtout, restez unis. Ne vous laissez pas diviser. Bon, qu'est-ce que cela veut dire d'être unis? Comment vivre cette unité? D'où est-ce qu'elle vient? Qu'est-ce qui fait l'unité des supporters de foot? Qu'est-ce qui fait l'unité d'un club de pétanque, d'un groupe de musique, d'un orchestre symphonique, d'un pays? Nous autres humains, nous nous rassemblons autour d'une cause commune, d'un but commun, d'une passion que nous partageons. Et pour nous, pour l'Église, qu'est-ce qui fait notre unité? Nous pourrions répondre la même chose. Nous choisissons tous de nous rassembler parce que on aime la cause du Christ, parce qu'on veut poursuivre des buts communs, on veut rendre un culte à Dieu, vivre comme des disciples, témoigner, annoncer l'Évangile autour de nous, parce que nous partageons la même passion, connaître Jésus. Et quelque part... On a un but, on a un projet, on se rassemble, on s'unit. L'église de Corinthe avait été établie par le travail missionnaire de l'apôtre Paul. Après lui, d'autres enseignants sont passés et se sont mis au service des chrétiens de là-bas. Pierre, Apollos. Hélas, Paul reçoit des nouvelles que des camps se sont formés. Moi, je suis de l'école de Paul, moi, disciple d'Apollos. Moi, je marche dans l'enseignement de Pierre. Alors que nous devrions tous chercher avant toute autre chose d'être des disciples de Jésus-Christ. Alors comment nous garder de cette envie de nous retrouver toujours plus peut-être entre soi? Comment trouver la raison, la motivation, l'envie de faire corps, équipe avec celles et ceux qui certes sont en Christ, mais pas comme nous? Est-ce qu'il faut une liturgie bien traditionnelle? Ou est-ce qu'il faut un culte spontané? Ne levez pas la main. Est-ce qu'il faut une prière écrite et méditée face aux Écritures saintes, inspirée des psaumes ou d'autres choses? Ou est-ce qu'il faut une prière qui vient du fond du cœur, dans un face-à-face intérieur avec Dieu, spontanément? Est-ce qu'il faut des temps de silence, de recueillement dans les cultes, ou est-ce qu'il faut une musique qui convoque nos émotions aussi bien que nos pensées vers le Seigneur? Je m'amuse à cristalliser peut-être les choses qui nous opposeraient. Des choses assez légères, hein, on pourrait aller plus dans le détail. Qu'est-ce qui fait qu'on va dire « Non mais, je veux garder l'unité. Je veux garder l'unité. » Je vous propose deux idées. Deux idées à considérer dans nos cœurs qui nous disent « Ok, c'est pas ce que je préfère. » Ou c'est pas ce que je crois fondamentalement, mais je vais garder l'unité. La première idée, c'est qu'on n'a rien inventé, rien créé, mais qu'on a tout reçu et que tout nous a été confié. Nous sommes les dépositaires, nous sommes les intendants de l'Église. Première idée. La deuxième idée, c'est de contempler ce que nous avons, hein, compte les bienfaits de Dieu. On gagnerait beaucoup à insister sur ce que nous avons en commun et ce que nous partageons déjà, plutôt que de nous concentrer sur ce qui nous différencie. Je commence par la première idée. Je vous lis un petit passage de l'évangile de Luc, que vous connaissez, je pense, c'est au chapitre 12. Qui donc est le serviteur digne de confiance et intelligent? Celui que son maître chargera de veiller sur la maison et de donner aux autres serviteurs leur part de nourriture au moment voulu? Ah, heureux ce serviteur! Si le maître, à son retour chez lui, le trouve occupé à son travail. Je vous le déclare, c'est la vérité, le maître lui confiera la tâche de tous ses biens. Mais si le serviteur se dit « Oh, mon maître tarde à revenir », et s'il se met à battre les autres serviteurs et les servantes, s'il mange, boit, s'enivre alors que le maître s'enivre, alors le maître reviendra un jour où les serviteurs ne l'attendent pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, et il chassera le serviteur et il fera partager le sort des gens indignes de confiance. Connaissez cette parabole? Et dans ce récit, on trouve bien l'idée que Jésus s'en va et confie la baraque à quelqu'un pendant son absence. Oui? Et donc, il y a quelqu'un qui est dépositaire, intendant. Il s'occupe de quelque chose qui n'est pas à lui. Ça va? L'Église est quelque chose qui n'est pas à nous. L'Église est quelque chose qui n'est pas à nous. L'Église n'est pas à nous. Je peux dire, c'est mon Église. Comme je peux dire de la France que c'est mon pays, mais je possède que dalle. Les deux, la France et l'Église, existaient avant moi. Et par la grâce de Dieu, ils existeront bien après moi. J'ai été appelé à Vauvert pour servir auprès de celles et ceux qui sont le fruit de ceux qui ont bâti avant moi. Et d'autres viendront après moi continuer à venir servir ici, dans une œuvre qui ne m'appartient pas. Et de même, qui parmi vous a participé à la fondation de ce temple ? Qui parmi vous était là lorsque l'association cultuelle en 1905 a été fondée ? Qui était là lors de la séparation avec le grand temple ? Je ne parle pas des ancêtres, je parle de vous. Tous, nous héritons, nous recevons cette œuvre ici. Nous avons tous reçu, été formés, enseignés, encouragés, repris, édifiés, soutenus, rattrapés, portés dans la prière ici. Et ce « ici » était là avant nous. Et on n'a rien fait pour ça. Aujourd'hui, nous apportons notre contribution, notre participation. Aujourd'hui, nous sommes des pierres vivantes de cet édifice spirituel, de cette communauté, par nos chants, par nos musiques, par notre service, par nos visites, par nos prières, par l'accompagnement qu'on peut avoir, par la compassion envers les frères et sœurs, notre amour, notre argent, notre discernement, nos encouragements, bref, par tous nos dons. Nous rendons cet édifice vivant. Et nous partirons, d'une manière ou d'une autre. Et d'autres arriveront. Nous ne serons plus, la relève sera assurée pour poursuivre l'heure du Seigneur, ce que l'Église n'est pas à nous. Nous pourrions aller plus loin et dire que la foi qui nous anime est un dépôt aussi. Nous sommes des passeurs de foi, parce que la foi que nous avons reçue, elle nous a été passée, communiquée par des petites mains, depuis Jésus-Christ et ses 12 apôtres, jusqu'à nous. Paul encourage Timothée en disant « Garde le bon dépôt par l'Esprit Saint qui habite en nous. » Garde le bon dépôt. Et donc, il parle de cette foi en Jésus-Christ comme d'un dépôt, quelque chose qui ne m'appartient et qu'on me confie afin que je la transmette. Notre communauté, notre Église est un dépôt qui nous est confié. Nous en bénéficions, nous en prenons soin, mais nous en sommes que des intendants. Nous ne la possédons pas. On ne peut pas en faire ce qu'on veut. Et il en va de même de la foi. Il est important de comprendre et d'accepter, je pense, cette dimension de l'Église. Moi, je vais partir. Il y en a ici qui regardent leur avenir et qui disent « Moi, je vais mourir ici. » Pas dans le sens négatif, mais dans le sens « Je vais rester ici encore des années, toute ma vie. » Vous, vous pouvez envisager de dire « Cette église-là, je vais... » Voilà, c'est un engagement envers le Seigneur. Je vais participer à cette vie communautaire qui m'a accueilli, qui m'a nourri, qui m'a amené à être un chrétien, une chrétienne, debout. Et puis, je vais veiller à ce que, quand je meurs, elle soit encore là. Je ne peux pas avoir ce type d'engagement parce que je dois bouger d'église en église. Mais certains, ici, vous pouvez l'envisager. M'engager auprès de cette œuvre de Dieu qui m'a béni et rester là. Jusqu'à ce que je parte, et là, je veux qu'elle soit encore debout pour qu'elle bénisse d'autres comme elle m'a béni. Vous voyez, là on rentre vraiment dans une mentalité d'intendant. Je ne suis pas en train de dire que vous devez tous faire ça. Je suscite peut-être un appel dans certains cœurs. Et qu'est-ce que ça change quand on a cette mentalité d'intendant ? Ça nous rend humbles. Quand on se sent dépositaire, héritier, ça nous rend humbles. Autour de vous, vous connaissez peut-être des personnes qui ont cette impression de s'être faites elles-mêmes. Self-made man ou self-made woman. Leur personne, c'est des personnes qui se disent qu'elles ont la conviction de devoir leur réussite, leur carrière, leur caractère, leur érudition, leur fortune, leur situation à leurs efforts, à leur persévérance, à leur bon choix. Et quelque part, elles ne doivent pas grand-chose, pour ne pas dire rien, à personne. Ils ont compris, ils ont mieux négocié, ils ont anticipé. Et ces personnes auront tendance à relativiser, voire à oublier ce qui leur a été confié, ce dont elles ont été au bénéfice, ce dont elles auront été les dépositaires bienheureuses. Ainsi, il peut arriver de croiser des chrétiens ou des chrétiennes qui vivent comme ça. Ils ont la Bible, ils ont l'Esprit, et ils se sont faits eux-mêmes. Ils ont tout tracé par eux-mêmes comme ça. Et malheureusement, ces chrétiens pourront aborder l'Église sans considérer l'œuvre du Christ depuis des siècles. Et si on parle de ce bâtiment, on peut parler de l'œuvre du Christ à Vauvert depuis des siècles. Mais ils vont considérer l'œuvre du Christ ici et maintenant, alors qu'elle s'inscrit dans une passation, dans une transmission. Chez eux, il n'y aura pas ou peu de notion d'héritage ou de dépôt, mais de ici et maintenant. Et ils seront orgueilleux. À l'extrême inverse, on peut trouver des chrétiens qui seront figés dans une vénération du passé. Garder l'héritage, mais à la lettre. Ne rien toucher, ne rien changer. Les racines, les ancêtres prestigieux, l'arbre généalogique qui remonte jusqu'à la Réforme ou jusqu'au Vaudois. Garder le rite, garder la forme. La tradition, le souvenir. Car s'il est vrai que nous sommes dépositaires de l'œuvre du Christ, cela ne nous transforme pas pour autant en gardiens de musée. Nous sommes les intendants d'une vigne qui est vivante, d'un verger plein d'arbres vivants, les gardiens d'un troupeau vivant. Nous devons soigner pour garder en vie. Alors que ces traditionnalismes extrêmes peuvent nous figer, nous scléroser, nous transformer en pierre. Ainsi, d'un extrême à l'autre, le piège, c'est l'orgueil. Un orgueil placé en moi-même, je me suis fait tout seul. Un orgueil placé dans une identité, mes ancêtres, notre passé, notre histoire, qui n'a plus rien de vivant aujourd'hui. À la place de l'orgueil, la reconnaissance verticale, horizontale, nous garde en vie. Reconnaissance verticale tournée vers le Seigneur qui nous a confié le dépôt et nommé intendant et intendante de son œuvre. Je te confie à l'Église, toi, je te confie à l'Église et je te confie l'Église. Reconnaissance horizontale, marquée par du respect, de l'humilité envers le passé, les œuvres de nos ancêtres dans la foi, et puis aussi ceux qui nous ont amenés à Christ, ceux qui ont été nos moniteurs d'école du dimanche, de cathé, ceux qui ont été nos liturges, nos prédicateurs, nos diacres, nos anciens. Le Seigneur nous confie à son Église autant qu'il nous confie son Église. Gardons cela à cœur, mes frères et sœurs. Laissons-nous toucher par cela. Laissons-nous toucher par cela. L'Église ne nous appartient pas. Et le Seigneur nous confie à l'Église autant qu'il nous confie l'Église. Bon, ça, c'est la première idée. La deuxième idée, je le répète, c'est que nous gagnerions beaucoup à insister sur ce que nous partageons déjà plutôt que d'insister sur ce que nous ne partageons pas. Je me répète, si vous m'avez déjà entendu le dire, la devise de l'Union européenne, c'est l'unité dans la diversité. Et si l'Église devait avoir une devise, ce serait la diversité dans l'unité. La diversité, mais dans l'unité. Nous sommes unis au Christ, bien plus fortement que nous le réalisons. Nous sommes connectés à lui, greffés à lui, adoptés par lui. Lui vit en nous et nous vivons en lui. Nous sommes le corps dont il est la tête, nous sommes la fiancée dont il est le fiancé, nous sommes le temple dont il est la pierre d'angle, nous sommes le troupeau dont il est le berger, nous sommes les prêtresses et les prêtres tandis qu'il est le grand prêtre, nous sommes les intendants du roi qu'il est, les citoyens de son empire. Bon, bref, toute la réalité de notre vie spirituelle tire sa source de lui. Amen. Amen. Alors pourtant, on ne tombera pas d'accord forcément sur toutes les nuances et les conséquences de ces vérités. On va connaître des limites à notre unité. Oui, d'accord, on est tous prêtres, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être prêtre ? D'accord, on est tous adoptés, mais bon, est-ce que ça peut se perdre ? Est-ce que ça peut se gagner ? Puis lesquels sont vraiment adoptés et lesquels se croient adoptés, mais se trompent ? Et bon, le baptême, on en parle ? Un rite, un sacrement, un mémorial. Bon, j'arrête la liste. Prenons les choses à l'envers. Si nous devions faire la liste de tout ce sur quoi nous sommes d'accord. Dieu a-t-il créé le monde ? Le monde est-il tombé sous l'emprise du péché ? La mort est-elle la conséquence du péché ? Sommes-nous victimes et coupables de ce péché à la fois ? Les humains peuvent-ils échapper à la souffrance ici-bas ? Jésus de Nazareth est-il né humain de Marie, qui était vierge ? A-t-elle souffert comme nous ? A-t-il souffert comme nous, pardon ? Est-il vraiment mort physiquement ? Est-il vraiment ressuscité physiquement ? Les cieux existent-ils ? Est-ce qu'il existe une réalité invisible du monde, avec les anges, les démons et le Seigneur lui-même ? Est-ce que nous sommes des êtres, nous aussi, à la fois matériels et spirituels ? Est-ce que le... Bon, je pourrais continuer la liste de toutes les choses sur lesquelles nous sommes d'accord. On pourrait passer des journées à faire des listes de ce sur quoi nous sommes d'accord. Qu'est-ce que nous avons en commun ? Et oui, il y a bien des choses sur lesquelles nous pourrions débattre parce que nous ne tombons pas d'accord, mais si nous prenions le temps de gérer ce sur quoi nous sommes d'accord, peut-être n'aurions-nous plus de temps pour nous occuper de ce dont nous ne sommes pas d'accord. Je prends un exemple très concret. Jésus nous laisse un commandement nouveau. Vous le connaissez ? Aimez-vous les uns les autres, et la suite ? Comme je vous ai aimé. Super. Qui est d'accord avec ça ? Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous êtes d'accord ? Ok. Bon, combien de temps il nous faudrait pour vivre ça entre nous, le travail ? J'adore la tête de Marie-Vonne. On se dit, allez, vas-y, on est tous d'accord là-dessus, aimez-vous les uns les autres ? Ouais, on est tous d'accord là-dessus. Ok, bon, on s'occupe de ce sur quoi on est d'accord. Donc, voilà, notre projet, c'est d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Combien de temps ? Une vie ? Il y avait un jeune comme ça une fois qui discute avec un pasteur et qui lui dit « J'arrive pas à croire en Dieu parce qu'il y a trop de choses que je comprends pas dans la Bible. » Le pasteur il regarde, il fait « Je comprends. Moi ce qui me dérange dans la Bible c'est tout ce que je comprends. Tout ce que je comprends et j'y arrive pas. » que je comprends et j'y arrive pas. Hein? Comme par exemple tendre l'autre joue, répondre au mal par le bien. Ça, je comprends. Pardonner 70 fois, 7 fois, faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. C'est pas très compliqué, hein? Je pense qu'on n'aurait pas trop de difficultés à discuter ensemble et à se mettre d'accord sur qu'est-ce que ça veut dire de faire aux autres ce que vous voudriez qu'on vous fasse. Alors c'est certain, pour collaborer ensemble, il faut être d'accord. Pour œuvrer ensemble, il faut être d'accord. Et il faut plus être d'accord pour passer sa vie à côté de quelqu'un comme son conjoint qu'il n'en faut pour passer une séance de cinéma ensemble. C'est sûr. Mais je crois que souvent nous passons à côté de ce que nous avons déjà en commun. Pour conclure, je veux relire ce que Paul a écrit dans son introduction. En fait, c'était la prédication de dimanche dernier. Je vous rappelle ça. Il écrit ceci à ses Corinthiens divisés. « Je remercie sans cesse mon Dieu à votre sujet, pour la grâce que Il vous a accordée par votre union à Jésus-Christ. En effet, unis en Christ, vous avez été comblés de toute richesse, en particulier la parole et la connaissance. Le témoignage rendu au Christ a été si fermement établi parmi vous qu'il ne vous manque aucun don de la grâce. » À vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ se révélera, c'est lui qui vous maintiendra ferme jusqu'au bout pour qu'on ne puisse vous accuser d'aucune faute au jour de sa venue. Et Dieu lui-même vous a appelé à vivre dans l'union avec Christ. Il est fidèle à ses promesses. Et dans tout ce passage, on a l'impression que Paul dit que les Corinthiens sont au top, mais quand on prend le temps vraiment de se pencher sur les mots, on voit bien que c'est Dieu et Christ qui ont tout fait pour, et qui feront tout pour. Nous n'avons pas inventé l'Église, c'est Jésus qui l'a voulu pour nous. Il a voulu conduire l'humanité à ne faire plus que un, sous son autorité, sous sa bannière, on aime bien dire, pour réconcilier cette humanité et avec elle le monde, à lui. Philippe nous l'a rappelé ce matin dans 2 Corinthiens 5, car Dieu était caché en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et dès lors, nous devenons des ambassadeurs, comme si à travers nous, Dieu disait, au nom du Christ, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Christ a fait l'Église, c'est lui qui l'a fondée. C'est lui qui la garde, c'est lui qui l'enrichit, c'est lui qui viendra la chercher. Nous sommes par lui, en lui, pour lui. Lui qui vit en nous. Voilà, je vous invite à méditer sur ces deux fondements de l'unité des chrétiens. Quelle que soit l'église que vous fréquentez ou que vous fréquenterez, c'est pas la vôtre. Même si vous faites tout seul une église de maison, même si vous démarrez une communauté dans une ville, from scratch, de rien. S'il y a quelque chose qui pousse, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est venu arroser par son esprit. C'est pas vous. Ou alors vous avez fait une secte. Et je vous le souhaite pas. L'église n'est pas à nous. Et regardons à ce que nous avons en commun plus qu'à ce qui nous distingue. Parce que je crois qu'en Christ, nous avons beaucoup en commun. Et si on prenait le temps de s'occuper d'abord du commun, avant de s'occuper de nos limites. Amen.